Bienvenue dans Infirmière de Novice à Experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel.
Nous sommes Sylvie
et Karine,
deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain.
Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et les réalités de la profession infirmière.
Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique.
Alors, mettez vos écouteurs.
Prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de...
Infirmière de Novice Experte.
Bonne écoute.
Bonne écoute. Salut Sylvie.
Salut Karine.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Aujourd'hui, je pense qu'on avait parlé qu'on travaillerait sur l'évaluation, donc faire comprendre davantage l'évaluation en soins infirmiers, parce que je pense que c'est quelque chose que nos étudiants ont peut-être un peu de difficulté à comprendre l'importance. Et en stage, c'est le fun, ils veulent faire des techniques, c'est le fun de faire des techniques, mais le rôle de l'infirmière est à 60 % d'évaluation, si ce n'est pas plus. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais je pense que c'est une difficulté aussi, puis c'est une difficulté de nos étudiants, nos infirmières en début de pratique, c'est de mettre le temps puis l'énergie sur ces choses-là, sur l'évaluation, sur développer cet aspect-là qui est peut-être un petit peu moins trippant que des techniques, tu as absolument raison. Puis aussi de voir, dans le fond, c'est notre trait distinctif des soins infirmiers, c'est ça, une infirmière, ça évalue, c'est une activité réservée, Sylvie, c'est ça?
Oui, mais c'est notre première activité réservée. C'est faire l'évaluation d'une personne qui est symptomatique, donc au niveau physique et au niveau mental, ou les deux, et un ou l'autre ou les deux. Et tu sais, l'évaluation, c'est large, c'est grand. Puis on le voit aussi, peut-être faire juste un aparté par rapport aux infirmières auxiliaires. Les infirmières auxiliaires aussi évaluent, mais on dit ils vont contribuer à l'évaluation. Et donc, ils vont aller chercher de l'information. Le préposé aussi va aller chercher de l'information. Nous, on va chercher de l'information, on évalue, puis le médecin aussi va le faire. Donc, tout le monde va le faire. Mais c'est ce qu'on va faire avec l'information qu'on va trouver qui fait la distinction entre un préposé, une infirmière auxiliaire, une infirmière, puis le médecin.
Qu'est-ce que tu veux dire par c'est ça qui nous distingue dans le fond? Qu'est-ce qu'on a de particulier dans notre évaluation qui est différent de celle des infirmières auxiliaires ou des préposés?
Bien, gars, je vais te prendre un exemple bien concret pour une rougeur au niveau du siège. Donc, le préposé, lui, sa job, c'est de faire les soins de base. Donc, il fait la toilette d'une personne, de Madame X, puis là, il se rend compte qu'au niveau du siège, c'est rouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne dira pas, bien, je vais mettre de la crème ou je vais le tourner aux 2 heures. Bien, au départ, ce qu'il va faire, il va le dire probablement à l'infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire va aller voir ça, va dire, ouais, c'est pas normal. Vu que c'est pas normal, parce qu'elle, l'infirmière auxiliaire, évalue la normalité, et dès que ça devient anormal, elle doit donner l'information à quelqu'un au-dessus d'elle, qui est l'infirmière. Donc, nous, comme infirmières, oui, on sait qu'il y a une rougeur, mais on va aller chercher d'autres informations. Donc, on va élargir notre évaluation. On va aller voir, bon, la rougeur, elle est comment? Est-ce que la personne se mobilise? Comment elle va s'alimenter? On va faire l'échelle de Braden. Donc, on va aller chercher plein d'informations, même la médication. Y a-t-il la médication qui fait que la peau va devenir plus mince? Donc, va faire plus et plus à risque de faire des rougeurs. Le matelas. Donc, tu sais, on va en rajouter de l'information. Donc, ça, c'est notre évaluation. Et avec ça, c'est là où on va analyser l'information pour dire, moi, il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce problème-là? Là, avec la plaie, c'est un peu différent parce qu'on a notre rôle autonome dans nos activités réservées de l'ordre des infirmières. On peut initier des traitements. Donc, de là, l'importance de faire une bonne évaluation complète pour trouver le bon traitement. Fait que, bon, si on y va avec un autre élément où on ne peut pas faire d'intervention, bien là, à ce moment-là, on va prendre notre évaluation, la même chose, et on va référer au médecin pour que lui nous donne le bon traitement à faire. Donc, ça pourrait être un médicament, il pourra demander des compléments d'information. Donc, des compléments d'évaluation parce que lui, à son niveau, son rôle, c'est de traiter, donc de donner de la médication, de faire des, peu importe, une chirurgie ou, donc, c'est là où on va traiter. Donc, l'évaluation va commencer à la base, puis elle va grossir. Donc, fait que si on ne fait pas notre rôle correctement d'évaluation, puis on ne va pas chercher l'information pour alimenter le médecin pour pouvoir avoir le bon traitement pour notre patient, bien, à quelque part, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, c'est à ce niveau-là, et c'est un rôle autonome et c'est très vaste au niveau de l'évaluation. On peut évaluer plein de choses, mais avant, je pense qu'il faut aller à la base. Qu'est-ce que je dois évaluer?
C'est vrai. Dans le fond, ce que tu dis, c'est comme si notre rôle infirmière, c'est d'analyser un peu toutes les données qu'on collecte. T'sais, préposé auxiliaire peut collecter des données. Si ça sort de la norme, ils doivent venir se référer à nous. Donc, nous, on va collecter plus de données, on va creuser un peu plus ou même beaucoup plus. On va essayer de trouver c'est d'où l'origine de cette anormalité-là. On va faire notre évaluation clinique complète. Puis ensuite, on décide, et c'est l'analyse, le constat, les interventions ensuite qui en découlent, que ce soit des interventions autonomes ou d'aviser le médecin. C'est notre jugement infirmier qui ressort dans cette activité réservée-là, finalement.
Absolument. Puis c'est autonome, donc tu le dis bien. Donc, ça veut dire autonomie, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va nous le dire. Donc, c'est dans notre responsabilité. Ça, tu sais, l'autonomie vient avec la responsabilité. Donc, notre responsabilité, lorsque j'ai un patient diabétique, ben c'est je dois être en mesure de reconnaître ce qui est normal de ce qui n'est pas normal dans sa situation. D'être capable de voir que mon patient est en hypoglycémie, comme de voir que mon patient est en hyperglycémie. Parce que ça fait partie de mon rôle d'évaluation d'un patient qui est symptomatique. Mais si je ne sais pas qu'un patient diabétique va faire un hypo ou un hyper, ou qu'il va faire une neuropathie périphérique, comment je vais être en mesure d'évaluer ça si je ne sais pas ce qui m'attend? Donc, et notre rôle, c'est beaucoup aussi d'évaluer les choses qui peuvent arriver. Donc, il faut que je les connaisse, ces complications-là. Parce que si je ne les connais pas, je ne serai pas capable de les voir apparaître parce que je ne saurais pas que ça existe. Et on le voit en première année. En première année, on n'a pas de pathologie ou très peu de pathologies connues. Donc, lorsqu'on arrive en stage, on va aller évaluer ce qu'on connaît. On va y aller avec les signes vitaux. On va aller avec des choses de base parce qu'il faut vraiment commencer à quelque part. Puis la première chose qu'on évalue, c'est les signes vitaux. Mais après ça, ils vont servir dans plein d'autres pathologies.
C'est un peu pour ça qu'on a décidé de parler de ça pour notre troisième balado de l'évaluation clinique, parce que c'est une difficulté en début de pratique, que ce soit durant la formation ou pendant qu'on débute en tant qu'infirmière, c'est de distinguer le signe alarmant de quelque chose qui peut attendre au lendemain pour aviser le médecin. Qu'est-ce qui est vraiment important par rapport à tel médicament? Qu'est-ce que je surveille après? Connaître les complications, tout ça. Bien, ça, c'est une difficulté, puis ça part un peu de notre évaluation clinique. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie intégrante du défi en début de pratique de faire une évaluation clinique complète, là, et juste, pertinente.
Oui. Puis l'évaluation, ça peut être en macro et en micro. Et quand ton patient, quand tu le reçois en début de stage, la première journée, ben, tu ne le connais pas. Tu n'as pas le choix de faire de l'évaluation. Il faut que tu connaisses ses antécédents, faut que tu connaisses ses médicaments, faut que tu connaisses ses habitudes de vie, donc puis les traitements qu'il y a. Donc, on va aller chercher de l'information. La recherche d'information, c'est de l'évaluation. Parce qu'après ça, avec ces informations-là, là, tu vas savoir, bon, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal? Y a-tu des choses que je dois surveiller davantage? Fait que ça, c'est en micro, en macro, mais après ça, je vais y aller un peu plus poussé, un peu plus serré. Mon patient revient du bloc opératoire, fait que, mais je le connais, je sais qu'il y a des antécédents, je sais qu'il y a de la médication. Donc là, je vais aller évaluer ça. Mais après ça, quand mon patient a de la douleur, bien là, je vais aller évaluer cette douleur-là. Je n'irai pas évaluer ses jambes si j'évalue de la douleur au niveau abdominal. Donc, chaque étape d'évaluation a son importance. Donc, mais pour nous, ça va bien, on est des experts. Lorsqu'on commence, si on ne sait pas ce qu'on doit évaluer, on s'en attendra pas.
Non, c'est vrai. Si on commence avec macro, dans le fond, quand tu décris une évaluation macro, tu veux dire un peu, je collecte les informations de base sur mon patient, c'est-à-dire quand je reçois son plan, de soins, son dossier, je regarde ses antécédents, j'anticipe un petit peu les scénarios qui peuvent se passer avec mon patient. Donc, en regardant le plan, de soins, je vois qu'il y a tel, tel, tel antécédent. Oh, il est à risque de complications aujourd'hui, il pourrait faire une pneumonie, par exemple. Donc, d'essayer de cibler les scénarios catastrophes de ma journée, qu'est-ce qui pourrait se passer chez mon patient? C'est quoi mes priorités de soins ou d'évaluation chez ce patient-là, dans le fond? Donc ça serait ma première étape de macro. Puis après ça serait d'aller évaluer mon patient réellement dans le lit, là.
Ben
C'est ça
oui,
que tu veux
parce
dire?
que oui, puis en même temps, ben de dire, bon, ben par rapport à ce que j'ai, ben mon patient, il est diabétique. Bon, mais ben quand je vais aller le voir pour de vrai, c'est sûr que je vais faire une glycémie. Pourquoi je vais faire une glycémie? Tu sais, elle peut être, habituellement, elle est prescrite par le médecin, mais ça reste quand même quelque chose d'autonome. J'aurais pas, parce qu'une glycémie capillaire, c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'évaluation. Donc, ben si je le fais, pourquoi je vais faire une glycémie? Parce que je veux savoir s'il est en hypo ou en hyper. Et, mais ça va venir également avec la bonne façon de le faire. Si je fais une glycémie après avoir mangé, ça se peut qu'il soit en hyper, c'est normal. Mais il va falloir que je le fasse avant. Donc, fait que là, ça vient complexifier l'évaluation. Fait qu'on va y aller pour chacun. Puis c'est pour ça que c'est tellement, les recherches en stage deviennent tellement importantes. Et on va faire des travaux de stage, puis on leur dit, bon, ben, va chercher, va faire des recherches sur tes médicaments, va faire des recherches sur tes pathologies, va faire des recherches sur tes antécédents. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut que tu saches quoi évaluer. Et puis, qu'est-ce que tu vas évaluer? C'est souvent par rapport aux complications possibles. Parce que si mon patient n'avait pas de risque, il ne serait pas à l'hôpital, il serait chez eux. S'il y a besoin d'évaluation puis de surveillance infirmière, c'est parce qu'il y a des complications associées à différents aspects de son épisode de soins.
Donc, de cibler tes hypothèses avant de rentrer dans la chambre. Chez nous, on appelle ça des hypothèses précoces, là, donc de sortir tes priorités de soins, tes scénarios catastrophes pour ton corps de travail. Qu'est-ce qui peut se passer chez ton patient? Après ça, tu vas aller l'évaluer de façon globale, mais avec toujours ça en arrière de la tête. Donc, on parlait de la glycémie. Si tu penses qu'il peut faire une hypo, peut-être que tu prends une glycémie. Si tu penses qu'il peut faire une pneumonie parce qu'il est alité depuis longtemps, qu'il y a plusieurs facteurs de risque au niveau pulmonaire, peu importe, ben, tu vas ausculter tes poumons de façon très attentive pour être en mesure de distinguer les petits crépitants. Donc, de cibler tes évaluations les plus prioritaires chez ton patient, ça peut vraiment t'aider à avoir une évaluation clinique qui est plus pertinente, plus ciblée, puis qui va chercher toute notre champ d'expertise en tant qu'infirmière, là.
Ben oui. Mais regarde, on reprend un patient post-op qui revient, qui a de la douleur. On va lui donner, on va faire l'évaluation, le PQRSTU, parfait. Donc, on comprend, mais on se rend compte que c'est la première fois, il n'y a jamais eu d'opiacé parce qu'on a connu un peu notre patient. C'est un patient qui est âgé. Ben là, ce qu'on va lui donner, un opiacé, on sait qu'il y a des complications qui peuvent arriver. Okay? Donc, la surveillance de la douleur, l'efficacité, oui, mais on va aller bien plus que ça. On va prendre la respiration, on va évaluer son niveau de sédation parce qu'il est à risque de compliquer en lien avec la pharmaco. Okay? Mais si je ne le sais pas, moi, qu'un opiacé, si je donne de la morphine, que ça crée une dépression respiratoire, pourquoi je l'irais prendre sa fréquence respiratoire alors que je donne quelque chose pour sa douleur au ventre? T'sais, ça ne fit pas ensemble. La douleur au ventre, la respiration, c'est deux mondes, c'est deux systèmes différents. Mais parce que je connais les complications associées à la prise d'opiacé, ah là, ça fait du sens de dire, je vais aller évaluer aussi sa fréquence respiratoire. Donc, de là, l'importance de comprendre puis de connaître les complications qui peuvent arriver. Mais ça va se faire uniquement avec l'évaluation du patient dans sa globalité, mais en lien avec un médicament spécifique. Fait qu'imagine, tout ce qu'on peut aller chercher comme évaluation, comme complication possible sur un paquet de choses. Mais après ça, ben, on va aller cibler les priorités. Et avec l'expérience, on connaît les risques associés. Lorsqu'on commence dans les stages, au début, dans nos premiers stages, tout semble important. Et on a appris que la fréquence respiratoire est entre, mettons, 12 et 18, ou 16 et 20, là, ça dépend des volumes. Une respiration à 24, on est tout énervé. Hey, non, non, ça sort des normalités. C'est correct parce que déjà, tu as le réflexe de dire, c'est pas normal. Mais pas normal ne veut pas dire nécessairement dangereux. Donc, à ce moment-là, ben là, on va aller travailler avec l'étudiant sur, oui, ton 24, il sert à quoi? C'est-tu parce qu'il est défini qu'à l'effort, parce qu'il vient de faire un effort? Là, on va aller renchérir l'évaluation. Donc, le 24, pourquoi il est là? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est-tu une condition préalable? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Donc, notre rôle comme enseignante en stage, c'est de les amener à valider ces informations-là, à les rajouter de la garniture au niveau de l'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation minimum et d'évaluation maximum, je pense. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Quand tu as fait deux, trois, quatre patients qui ont à peu près la même pathologie, ben là, on est en mesure de dire, ah oui, pour ces types de patients-là, ben, telle complication, c'est plus dangereux, il faut les surveiller parce que ça arrive souvent. Pour d'autres, ça va arriver une fois sur 1 million. Donc, mais plus on en fait, plus on devient bon, c'est dans n'importe quoi. Donc, l'évaluation, plus on va être curieuse en évaluation, plus on va être en mesure de voir arriver ce qu'on ne veut pas qu'il arrive dans le fond. Parce que notre rôle, c'est beaucoup un rôle de prévention. Et si je sais que mon patient est à risque de dépression respiratoire, je vais surveiller la respiration justement pour réussir à le voir arriver juste avant que la dépression respiratoire se produise, parce que je vais pouvoir intervenir en amont.
Oui, voir les signes avant qu'on arrive là, réellement au problème. On est beaucoup mieux de les voir en précoce qu'en tardif, là. C'est un défi en début de pratique. Tu sais, moi, c'est un de mes plus grands défis que j'ai trouvé, là. J'avais travaillé en chir général. Donc, tu passais d'un lit d'orthopédie à un lit de gastro, à un lit de
De
peu importe,
neuro.
là, neuro, peu importe. Donc, des patients différents dans chacun des lits. Et là, tu as des patients qui ont des drains tous différents. Ça, je trouvais ça difficile de savoir c'est quoi la normalité quand tu as autant de patients différents. C'est sûr que si tu es un milieu super spécialisé où est-ce que tes patients ont à peu près toute la même chirurgie, au moins tu te spécialises dans quelque chose, mais la majorité des gens qui débutent sont sur un département général un peu plus, hein. Tu as un drain pancréatique. Ça draine quelle couleur, ça, versus un drain biliaire, versus un TNG, puis un hémovac, un drain de plaie, par exemple? Bien, il faut que tu saches toutes ces normalités-là. Puis là, je finissais ma journée, là, j'avais la tête pleine de drains, là. Mais il fallait creuser, tu sais, t'as dit d'être curieux, puis de se poser des questions, puis tout le temps. En stage, je trouve le prof fait ça beaucoup, mais après ça, quand tu deviens infirmière, il faut que tu creuses un peu, puis que tu poses des questions, soit à tes collègues, que pendant un petit moment d'accalmie sur les tâches, je prenais le temps de chercher, OK, mon drain biliaire, quelle couleur qui est supposé drainer, tu sais. Parce que ces normalités-là, c'est ça qui va faire que ton évaluation après ça, elle est pertinente. Parce que si tu as juste collecté de l'information, comme on a dit tantôt, puis que tu fais rien avec après, tu n'es pas dans ton activité réservée, là. Tu n'es pas dans ton champ de profession.
Absolument. Puis en stage, ben c'est difficile pour une étudiante d'avoir toujours des nouveaux cas, mais c'est comme ça que tu développes ton expertise parce qu'éventuellement, tu dis, ah oui, j'ai déjà eu ça en deuxième session sur tel département. Après ça, ah oui, je l'ai eu, lui, en quatrième session sur tel département. Donc, ça te fait déjà une première base. Parce que de les avoir vus dans les livres, c'est une chose, mais de les avoir vécus, d'avoir pris le temps d'évaluer un patient en orthopédie, d'avoir évalué un patient en neuro, avoir évalué une plaie avec un drain hémovac, l'autre avec un drain biliaire. Donc, déjà, ça te fait une image dans ta tête, plus que juste de l'avoir vu dans les livres. La pratique, c'est comme ça qu'on va développer notre expertise d'évaluation.
Oui. Donc, si on récapitule, avant d'aller évaluer notre patient dans la chambre, il faut connaître les normalités, les signes alarmants, puis les complications possibles là, qui peuvent se passer chez ce patient-là Je pense que c'est un peu essentiel. C'est un prérequis à notre évaluation clinique, dans le fond. C'est de savoir ces choses-là, puis d'avoir un bon bagage de connaissances là, par rapport au type de patient que j'ai dans mon lit, les risques qui sont associés, puis de se faire des catégories d'images, comme tu dis, là. Donc, de savoir qu'un patient post-op d'une chirurgie pancréatique, ça a l'air de ça d'habitude. Si ça sort de ce cadre-là, c'est anormal. Donc, déjà juste de cibler les anormalités, ça va m'aider dans mon évaluation. Parce que quand je ne savais pas c'était quoi, que si c'était blanc, jaune ou brun, qu'est-ce qui sort de ce drain-là, je prenais une photo dans ma tête dans la chambre, mais je ne savais pas si c'était normal. Je regardais dans ma note au dossier avant, je me disais, OK, tout le monde a écrit que c'est brun, ça doit être. Là, je ne sais même pas si je dis la bonne couleur avec le bon drain, là. Mais tout le monde dit que c'est telle couleur, ça doit être normal. Finalement, je suis correcte, tu sais. Donc, ça, il faut les savoir d'avance. C'est un défi en début de pratique, je pense vraiment. Il faut
Oui,
conserver notre curiosité,
c'est
même
ça.
si on a
Et
fini.
puis, je te dirais que tu sais, l'évaluation de la pathologie, parce qu'il vient d'une chirurgie, je sais pas moi, au foie, au pancréas, peu importe, mais après ça, tu as cette évaluation-là, oui, les complications qui vont arriver en lien avec cette pathologie-là. Mais après ça, tu as toutes les complications qui peuvent arriver avec toute la médication qu'il y a. Après ça, les antécédents qui sont uniques aux patients. Ce n'est pas tous les patients qui ont, je ne sais pas moi, une chirurgie pancréatique, qui sont diabétiques ou qui sont insuffisants cardiaques ou ils sont insuffisants rénales. Donc ça vient complexifier ton évaluation parce que tu n'évalues pas juste une patho. Là, tu vas évaluer une patho qui a aussi un problème cardiaque, qui a aussi un problème rénal, qui prend tel et tel médicament. Donc, puis des fois, plus on a d'éléments d'évaluation similaires, plus le risque va augmenter. Et un patient post-chirurgie est à risque d'hémorragie, de saignement, mais en plus, il prenait des anticoagulants, en plus, il fait de la fibrillation auriculaire. Donc, on va aller évaluer au niveau cardiaque encore bien plus que juste la chirurgie qui va peut-être avoir bien été parce que c'est une chirurgie abdominale, mais tout le côté cardiaque, parce que là, maintenant, il n'y a plus d'anticoagulant, puis qui fait de la fibrillation auriculaire, là, on va aller évaluer davantage ça. L'importance, tu sais, on demande souvent aux étudiants de faire en premier l'évaluation de la tête aux pieds. Là, il dit, ben oui, mais pourquoi je ferais l'évaluation de la tête aux pieds? Il se fait opérer pour un appendicite. Oui, mais c'est parce que ton patient, c'est une unité, c'est un tout. Il y a des systèmes d'associés. Fait que ton système neurologique est important, savoir comment il est en début, même avant la chirurgie. Après ça, donc, le système cardiaque, le système pulmonaire, le système tégumentaire. Donc, tout ça, ben, il faut que tu fasses ton évaluation de la tête aux pieds. Tu vas aller voir ses jambes, sont-ils enflés, sont-ils pas enflés? Ça va avoir une importance selon les systèmes. Donc, fait que ça, ton évaluation de la tête aux pieds, tu en as besoin parce que tu as besoin de l'ensemble des systèmes. Et après ça, tu vas aller approfondir les systèmes qui causent un peu plus de problèmes ou qui risquent de causer des plus de problèmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ah, ben oui, c'est sûr. Je suis très, très, très d'accord. Les étudiants, moi, me disent souvent, ben souvent, c'est peut-être généralisé, là, mais j'ai déjà entendu des étudiants qui me disent, ouais, mais tu sais, ausculter les poumons, on fait ça juste pour se pratiquer, c'est comme un devoir, tu sais, c'est comme le prof qui me demande de faire ça et tout. Puis même croiser des infirmières, des gens en début de pratique qui me disent, Karine, je fais plus ça, ces affaires-là. Puis là, moi, je fais. Non, 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 attends une minute, là. C'est encore important, l'auscultation pulmonaire ou d'autres choses qu'on vous fait faire. La tête aux pieds, cette structure-là d'évaluation est super importante parce que c'est ton évaluation, comme on disait, macro tantôt, c'est ton big picture. En début de corps de travail, tu rentres, tu vas voir ton patient, tu évalues ton patient de façon globale, comment qu'il va. Puis ta tête aux pieds est là pour structurer finalement cette évaluation-là, pour que tu n'oublies rien. Surtout en début de pratique, tu as besoin d'une structure, d'une recette à suivre, répéter la routine là, continuellement. T'sais. Plus on répète quelque chose, plus ça devient automatique. Si tu suis une structure, ça va t'aider. Mais aussi, c'est parce que ces systèmes-là sont souvent très importants. T'sais. La tête, les poumons, le cœur, les intestins, le pipi. la peau des fesses puis les pieds. Tu sais, c'est pas mal ça, ta tête aux pieds, vite, vite, tes intraveineux, là, puis la douleur, mais. Puis tout ça est important. Moi, je donne jamais un mandat. On va pas évaluer des patients juste pour le fun en stage, là. Je dis pas à mes étudiants, là, on va aller faire la tête aux pieds. Ben, c'est pas pertinent pour ce patient-là, mais on se pratique. C'est pas ça. Ton patient, il a réellement besoin d'une tête aux pieds. Puis des fois, les pieds, ça semble banal, mais comme tu as dit tantôt, les pieds enflés, moi, je regarde toujours, toujours, toujours sous mes couvertes de mon patient. Donc, c'est réellement une tête aux pieds. Tu n'es peut-être pas obligé de faire tous tes signes neurovasculaires, toute ton évaluation là, de la circulation puis neurologique au niveau des pieds, mais juste regarder rapidement, sont-tu enflés, sont-tu chauds? Ça me donne une idée de sa circulation cardiaque, de, aussi, surtout si mon patient il a des antécédents cardiovasculaires, tu sais, pourrait me commencer une surcharge, puis je pourrais le voir très tôt avec mes pieds. Si je ne regarde pas mes pieds, là, mes signes sont plus loin, ils vont être des signes tardifs. On parlait tantôt de prévenir. Ma tête aux pieds est vraiment riche en informations. Là. Ça va me donner plein, plein, plein de choses sur lesquelles agir. Puis si je ne fais pas ça en début de quart de travail, puis que je le fais plus tard, ou que là, ah, mon patient commence à avoir des difficultés respiratoires, puis là, je commence à me poser des questions au niveau cardiaque, tu sais, es-tu en surcharge? Il est un peu trop tard de regarder ses pieds enflés, là, tu sais. Je vais essayer d'aller agir sur d'autres choses, mais c'est pas ça. Ou, mettons, j'ausculte mon patient en début de quart de travail au niveau des poumons. Si je fais ça dans ma tête aux pieds, je vais peut-être l'écouter, mon petit crépitant qui débute. Puis là, si je l'écoute plus tôt quand mon patient commence la dyspnée, puis je ne l'avais pas écouté avant, je n'ai pas de baseline, je n'ai pas de données de base sur lesquelles me baser. Mon patient, il avait l'air de quoi au début de corps de travail? Il y avait-tu des crépitants ou il n'y en avait pas? Parce que ça va changer si c'est quelque chose qui était présent au début de corps de travail ou qui n'est plus présent du tout là, plus tard. Je pense que c'est intéressant de voir cette évolution-là aussi de ton début de corps de travail à la moitié finalement. Fait qu'il n'y a pas d'évaluation qui est faite juste pour travailler, tu sais, puis se pratiquer là, dans le fond.
Non, ben, je comprends les étudiants quand ils disent oh, ils vont se pratiquer. Il y a certaines méthodes d'évaluation qui sont plus difficiles que d'autres. On parle, mettons, de prendre la tension artérielle avec un brassard puis un stéthoscope. On le sait, c'est difficile d'entendre le pouls. De moins en moins, on le fait comme ça. On a des machines maintenant pour pouvoir prendre la tension artérielle. Mais la journée où la machine ne fonctionne pas puis que tu as besoin de prendre une tension artérielle avec ton stéthoscope, bonne chance si tu ne l'as jamais pratiqué. Pratiqué dans le sens où tu vas te faire l'oreille. Donc, l'auscultation pulmonaire, c'est la même chose. Comment tu vas être en mesure d'évaluer quelque chose d'anormal? Si tu n'es pas en mesure de savoir c'est quoi la normalité. La normalité, dans les volumes, c'est écrit des murmures vésiculaires. Ça a l'air de quoi, ça, quand je l'écoute, des murmures vésiculaires? Est-ce qu'ils vont être pareils pour un patient qui est lancé cachexique versus un patient qui souffre d'obésité avec un thorax en tonneau? Les bruits vont être différents d'une personne à l'autre. Ils vont se ressembler. Mais il faut que tu en aies écouté beaucoup pour savoir que, ah oui, ça c'est normal, de ça c'est pas normal. Okay? Donc,
Ah, c'est sûr.
moi, je n'appelle pas ça de la pratique. Oui, c'est de refaire une évaluation. Comme on va regarder les pieds, 80% de nos patients, ils vont avoir les jambes et les pieds corrects. Mais comment tu vas savoir que maintenant, ah oui, là, il y a de l'édème, ah, il y a un édème à godet 1 plus, 2 plus? Mais c'est parce que tu vas en avoir évalué plusieurs. Pour dire, ah, ceux-là, ils ne sont pas normaux. Donc, la normalité va venir avec la pratique, avec le fait de refaire systématiquement les mêmes évaluations.
Mais on le fait aussi parce que c'est pertinent pour le patient, tu sais.
Oui.
Fait qu'on pratique, on le fait. Nos étudiants répètent les mêmes gestes, puis tu as raison que ça s'entraîne une oreille, là, puis que des crépitants, des râles, des sibilants, de savoir distinguer ça d'abord hein, au niveau des études, là, ils montrent que c'est très difficile à distinguer des fois. Fait qu'il faut se pratiquer énormément pour ça, mais en même temps, c'est pertinent pour ton patient. Fait que c'est pas. On ne vous demande pas de faire ça en tant que prof de stage, là, juste pour le plaisir, puis juste pour la pratique. C'est aussi pertinent pour ton patient. Fait qu'il faut pas que tu laisses ça tomber une fois que tu es devenue infirmière. Fait que ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se pratiquer. Puis pour la structure aussi, il faut automatiser, comme je disais tantôt, ces évaluations-là. Fait que pour ça, il faut les faire souvent.
C'est ça.
Puis être en
Mais tout
mesure
ce
de
qui est
voir.
automatisé, tout ce qui est automatisé va devenir une routine. Cette routine-là va t'empêcher de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis ton cerveau va se servir, tu vas te servir de ton cerveau pour voir, OK, ça c'est normal, c'est parfait. Ah, c'est pas normal. Là, je vais aller chercher d'autres informations, donc je vais aller chercher des complications. Mais parce que tu as fait toute ta routine, tu es sûr de n'avoir jamais rien oublié. Et la routine vient faire en sorte qu'à un moment donné, tu n'y penses plus. Tu sais, quand tu deviens expert, tu sais, nous, on est habitués de poser des questions parce qu'il y a un côté pédagogique en arrière de ça. Pourquoi tu évalues ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais tu vas poser la même question à une experte, puis elle va dire, ben, parce qu'il faut que je fasse ça, parce que ça fait partie de la routine. Puis, ouais, mais pourquoi? Ils sont pas capables de dire pourquoi il faut qu'ils le fassent, ben, tellement c'est ancré dans leur mode de travail. Parce que ça fait partie de pourquoi je prends une tension artérielle avant de donner un antihypertenseur? Ben, parce qu'on fait toujours ça. Ouais, mais pourquoi? Tu sais, là, cette réflexion-là, on n'a plus besoin de l'avoir quand on est expert parce que ça fait comme partie de notre évaluation. En voiture, c'est la même chose. Quand on commence nos cours de conduite, quand il y a un stop, ben il faut réfléchir. Ah oui, il y a un stop. Il faut que je pense à mettre le pied sur le frein pour ralentir tranquillement. Quand ça fait des années que tu conduis, tu t'es en train de parler, tu t'écoutes de la musique, tu parles avec la personne à côté, puis le stop, on dirait que tu le vois pas, mais les pieds vont le faire automatiquement. C'est la même chose en évaluation. Donc, plus on répète des choses, plus ça va devenir de la normalité. Et dès qu'il va arriver quelque chose dans ton évaluation qui va être anormal, c'est là que whoop, ta vigilance va embarquer. Tu vas dire, hey, non, non, d'habitude, on n'a pas ça, cet élément-là. Là, on va aller creuser davantage. Mais comme dans n'importe quoi, je pense qu'il faut commencer par la base. Puis la base, c'est d'évaluer, de prendre le temps de tout évaluer. Oui, c'est plus long, mais avec vos bonnes bases, vous allez vous faire un bon système. Puis après ça, vous allez prendre la vitesse. Okay? Vous allez connaître vos normalités, vous allez savoir aussi qu'est-ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. Okay? Ça aussi, ça vient avec l'expérience. Donc, c'est une pression qui est à 132. C'est-tu dangereux? Faut-tu que j'intervienne tout de suite ou pas? Okay? Quand je le prends pour la première fois ou dans les premiers stages, ben 132, c'est en dehors de la normalité. Maintenant, je fais quoi avec? Faut-il que j'intervienne tout de suite ou pas? Ben, là, on va continuer notre évaluation. On va amener l'étudiant à réfléchir sur une valeur qui est anormale pour voir est-ce que je fais quelque chose avec ou pas.
Oui. Ce que je trouve une difficulté, des fois, ils ciblent que c'est anormal, mais de se poser la question sur pourquoi ça l'est, ça, des fois, c'est plus difficile. Puis dans nos automatismes, dans notre routine de soins, moi, j'ai les étudiants en fin de parcours, puis peut-être les infirmières en début de pratique. Maintenant, les signes vitaux, là, où est-ce que je travaille, ça rentre directement dans le système informatique, OK? Fait que si ta machine, elle prend, puis fou, ça part dans le système informatique. Tu as peut-être un peu moins d'analyse que quand tu l'écris sur ton plan de travail, tu prends le temps de regarder. Tu sais, il faut que tu prennes le temps d'observer, même si notre système va maintenant à vitesse fois 1000. Observe ce que tu as sur ta machine avant de faire send dans l'ordinateur ou même de le retranscrire sur ta feuille sans poser des questions. Donc, une pression à 132, OK, qu'est-ce que ça peut faire à mon patient? Quels symptômes ça peut amener? Quelles manifestations? Qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Donc, se poser les questions quand on est dans la chambre, puis ensuite de continuer nos observations, d'aller dans ce sens-là. Ah, si ça peut faire telle, telle manifestation, ce serait bien que je demande à mon patient s'il a mal à la tête. Donc, de se poser les questions quand on est dans la chambre plutôt que de faire send, parce qu'après ça, on va être occupé dans d'autres choses probablement, puis ça se peut que mes signes vitaux restent bien loin en arrière de ma tête. Fait que je trouve que c'est un défi que la technologie nous amène, c'est d'analyser les informations. Quand je les reçois, les constater, tu sais, être dans le moment présent, finalement, ça a l'air niaiseux, mais d'être dans le moment présent quand je prends mes signes vitaux, de regarder, d'analyser qu'est-ce que j'ai devant moi. Même chose quand je fais ma tête aux pieds, tu sais, de prendre le temps de me demander, c'est anormal, qu'est-ce qui peut faire ça? OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'évaluer de plus, tu sais. Reste que c'est pas la fin du monde de retourner dans sa chambre 15 minutes après parce qu'on a oublié quelque chose. C'est plus au niveau de l'organisation, puis ça, on pourra en reparler une autre fois. L'important, c'est d'avoir une évaluation qui est complète. On parlait de routine puis d'automatisation tantôt. On a parlé de la tête aux pieds, qui est dans le fond une structure pour nos évaluations, mais il y a d'autres façons de structurer nos évals. Il y a des acronymes, il y a des choses, tu sais, dans vos manuels, le PQRSTU, le HIAPP, le CCM SPOD, ou je ne sais plus quel acronyme pour les signes neurovasculaires. Moi, je ne suis pas une fille d'acronyme. J'ai bien de la misère à me rappeler des significations de lettres, mais toutes ces acronymes-là, c'est des structures d'évaluation pour nous permettre de rentrer dans une évaluation qui est répétitive, toujours dans le même format. Mine de rien, si j'ai toujours le même format d'évaluation de la douleur, si je fais mon PQRSTU, au début, c'est lourd, là, penser à toutes ces questions-là puis ces lettres-là quand on est dans la chambre du patient. Mais si je le fais répétitivement, à un moment donné, cette structure-là va devenir instinctive, elle va devenir une évidence, comme tu disais tantôt. Puis après ça, ben, j'aurais plus besoin d'y penser à mes PQRSTU, mais je vais lui demander qu'est-ce qui a provoqué la douleur, puis ça fait combien de temps? Parce que ça va être ancré dans ma pratique, là. Et donc, c'est des bons outils, il faut les ressortir, ces outils-là. C'est pas juste un outil pédagogique de formation, c'est aussi un outil de travail pour l'infirmière, là.
Effectivement. Puis tu sais, tes données d'information, donc d'évaluation, tout seul, des fois, ça ne veut rien dire non plus. Tu sais, il faut évaluer avec. Ça a déjà été évalué avant. Comment il était? Tu sais, ben, on parlait de la pression à 132 de systolique, c'est pas beaucoup. Mais si je regarde, puis il est toujours à 98-100 de systolique, là, il est à 132. Ah, là, c'est plus la même affaire. Mais si je regarde aussi antérieurement, puis qu'il était à 162, puis là, il est rendu à 132, là, ça devient une amélioration. Fait qu'un chiffre, des fois, ça ne veut rien dire. Tu sais, il faut le mettre en relation avec d'autres choses. Donc, première étape, c'est d'évaluer aussi par rapport à ce qui était là avant. Et ta douleur, même chose. Avant, elle était à, ah ben, avant, elle était à 8 sur 10, là, maintenant, elle est à 2 sur 10. Ben, il y a une amélioration. Et donc, évaluer préalablement, puis évaluer après aussi. Fait que, tu sais, l'évaluation, ça se peut qu'à la suite d'avoir bien évalué, tu vas intervenir, tu vas faire une action. Mais après ça, cette action-là, es-tu efficace ou pas? Ça va être encore de l'évaluation qui va te le permettre. So, ça, je pense que c'est un élément. Ou des fois, on a tendance à l'oublier. On a un problème, on intervient, puis après ça, après. Bien, ça a-tu été efficace ou pas? Si ça a été efficace, tant mieux, mais si ça ne l'a pas été, qu'est-ce qu'on fait après? On continue encore à évaluer. Okay? L'évaluation, dans une démarche scientifique ou une démarche de soins, c'est la première et dernière étape. C'est ce qui va te lier ton étape pour être en mesure de refaire un cycle complet.
C'est souvent ce qui est oublié aussi quand tu vois les enquêtes sur les notes au dossier ou tout ça. On a fait des statistiques récemment dans le milieu où est-ce que je travaille. OK, au niveau des notes au dossier, qu'est-ce qui était. Bon, on documente bien que notre patient, il y avait de la douleur, qu'on lui a donné quelque chose, mais le suivi après l'intervention, l'a-tu marché, elle n'a pas marché, c'est souvent quelque chose qui est oublié. Au niveau des notes au dossier aussi. Donc, on ne sait pas si dans la pratique c'est fait puisque ce n'est pas aux notes au dossier, mais je peux m'imaginer que c'est des choses que quand tu es occupé et tout ça, ton suivi, ton intervention, des fois le rentrer dans ta routine de soins, comme on disait tantôt, puis dans tes pratiques, c'est peut-être aussi quelque chose qui est difficile. Mais ce n'est pas à négliger, là, ça, certainement. C'est vrai que c'est
Mais
super important.
ça, mais les notes au dossier, je pense que ça pourrait faire partie aussi d'un autre podcast
Ah, mon Dieu!
qu'on pourrait travailler parce que on écrit-tu tout? On écrit-tu juste des petits bouts? Donc, on écrit-tu ce qui est normal, ce qui n'est pas normal? On écrit-tu les deux? Ben, je pense que ça pourrait faire partie d'un prochain podcast, les notes au dossier.
Ça sera animé certainement, hein, parce que les notes
Oui.
au dossier, il y a des visions différentes de ça et tout. Fait que là, on a parlé un petit peu plus du macro, là, si on revient à notre sujet d'évaluation de la tête aux pieds, avec plus en début de corps de travail ou quand on reçoit le patient, puis tout ça. Tantôt, tu as parlé d'une évaluation qui est micro. Qu'est-ce que tu veux dire par micro?
Bien, micro, ben, c'est par rapport à un médicament. Et je l'ai mentionné,
Oui.
t'sais, si je donne de la morphine, ben, je dois évaluer avant. Donc, je vais évaluer la douleur, mais je vais évaluer aussi est-ce que mon patient est à risque de complications. Est-ce qu'il est plus à risque que les autres? Parce que tous les patients qui prennent de la morphine sont à risque de quelque chose. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Donc, en faisant une évaluation complète, lorsque je vais administrer l'opiacé, donc la morphine, je vais probablement adapter mes évaluations après. Donc, oui, je vais avoir une règle de soins. Maintenant, on a de plus en plus de règles de soins d'évaluation parce qu'on veut être certain qu'on ne passera pas à côté de quelque chose. Okay? Mais peut-être que pour ce patient-là, au lieu de faire l'évaluation, je ne sais pas moi, à toutes les demi-heures, ben, je vais peut-être le faire aux 15 minutes au début, un peu plus rapproché pour voir arriver les complications. Mais avant de savoir quel, tu sais, de dire, ah ben oui, il faut que je fasse l'évaluation, il faut toujours bien que je sache c'est quoi les complications. Puis si je sais pas qu'un opiacé, ça amène de la dépression respiratoire, pourquoi j'évaluerais la respiration? Okay? Donc ça, c'est dans le micro. Okay? C'est pour ça qu'on dit, il y a tellement d'évaluations. Donc on va évaluer notre patient de façon globale, de façon chacun des systèmes. Et après ça, on va y aller, on va ratisser. Puis on va dire, OK, bon, ben, par rapport à la pathologie, quels sont les systèmes maintenant qui sont associés, qui risqueraient d'avoir aussi des problématiques ou qui vont avoir une incidence sur le suivi clinique que je vais avoir sur ce patient-là. Après ça, ben, chaque élément, chaque intervention que je devrais faire, donc intervention où on parle de choses qui vont aider le patient, soit en prévention, ou à prévenir ou intervenir. Mais ça veut dire c'est la médication. Donc, qu'est-ce que je vais évaluer sur ma médication avant puis après? Après ça, ben, les examens paradiagnostiques. J'ai des évaluations à faire avant et des fois des surveillances à faire après. Donc, après ça, ben, j'ai mes méthodes de soins. Avant de faire une méthode de soins, j'ai aussi à faire des évaluations. Tu sais, si j'installe un cathéter intraveineux, il faut que j'évalue ma veine. Il faut que j'évalue de quel côté je vais le faire. Parce que si c'est une patiente qui a eu une mastectomie, ah, OK, bon, ben là, on va changer de bras. Donc, ça, c'est des évaluations à faire, puis ça reste encore autonome. Tu sais, la méthode de soins, c'est une méthode, c'est correct, on le fait. C'est une intervention, mais il y a de l'évaluation à faire avant. Mais il va y avoir de l'évaluation à faire après. Pourquoi je vais évaluer mon site de mon cathéter intraveineux? Parce que je veux m'assurer qu'il n'y a pas de complications. Pourquoi je vais surveiller le débit de mon soluté? Parce qu'il pourrait avoir des complications si je l'envoie trop vite ou pas assez vite. Donc, tous ces éléments-là, c'est des évaluations aussi. On met peut-être pas assez l'accent sur les mots évaluation, mais chaque geste qu'on va faire doit demander une évaluation avant et une évaluation après.
Oui. On observe notre
Sinon,
patient constamment, là, dans le fond. On rentre dans la chambre faire quelque chose. Souvent, il va avoir une évaluation avant. Puis des fois, c'est peut-être moins, comme tu dis, évident. Ou on n'aime peut-être pas que c'est de l'évaluation, mais reste que c'est de l'observation. Donc, ça devient de l'éval, finalement. Mais c'est dans notre. À chaque fois qu'on est dans la chambre, on évalue en tant qu'infirmière, je pense.
L'évaluation, c'est quatre éléments. C'est de l'inspection, de l'auscultation, de la palpation, de la percussion. L'inspection, c'est quoi? C'est de voir. Et on va voir, on va regarder le teint du patient, on va regarder ses jambes. S'il y a de l'édème, on va palper. Et donc, c'est l'évaluation, c'est quatre. Il y a quatre éléments. C'est à partir de ces quatre éléments-là. Mais on dirait que l'inspection, parce que c'est des yeux, parce qu'il n'y a pas de. On touche à rien, on ne prend pas de stéthoscope, on ne touche pas au patient. C'est comme si ce n'était pas de l'évaluation. Mais oui, ça en
Ah ben
est.
oui, moi c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup en soins palliatifs parce que on essaie justement d'être un petit peu plus dans moins dans l'invasif ou moins dans le médical. On veut que le patient n'ait pas l'impression qu'il est malade constamment. Donc, des fois, on laisse un peu tomber tout ce qui est palpation ou des choses comme ça. Puis, on va observer énormément notre patient. Nos yeux sont super importants là-dedans. Puis, on essaie de le faire dans le quotidien plutôt que de faire une tête aux pieds, là, physiquement auprès du patient parce qu'encore une fois, ça amène la vision, là, médicale un peu. Mais c'est quelque chose que j'ai développé, mais il faut que tu regardes les yeux de ton patient. Sont-ils bien colorés? Ses muqueuses aussi, sont-ils sèches? Après ça, au niveau de la gorge, de la poitrine, la façon dont il respire, il y a plein, plein, plein de données que ça dit, toute cette observation-là. Ce n'est pas à négliger. Son fascia, est-il détendu? Y a-t-il l'air préoccupé? Après ça, dans le discours, il y a plein de choses que tu peux aller chercher aussi, là, dans le questionnaire, évidemment, là, mais.
Exact. Ça, tu sais, on va l'écouter, notre patient. Puis ça va, on va peut-être trouver d'autres problèmes qui peuvent peut-être être plus cognitifs. Ah, il commence à être désorienté, il me parle, puis c'est pas cohérent ce qu'il dit. C'est de l'évaluation aussi.
Oui, super important. Fait qu'on a notre évaluation micro qui est au quotidien, finalement. Pas au quotidien, mais à chaque minute, quasiment. Plus ciblé par rapport à nos problèmes qu'on a ciblés, nos priorités de soins.
Oui, puis par rapport aux interventions qu'on fait. Et par rapport, tu sais, on a des responsabilités par rapport aux méthodes de soins, on a des responsabilités par rapport à la médication qu'on administre. Il faut être en mesure de les évaluer avant puis après. Okay? Ça fait partie. Puis le cours de soins infirmiers, c'est ça. Tu sais, quand on va au laboratoire pour travailler une méthode de soins, oui, la dextérité de faire la méthode, c'est une chose. Mais tout ce qui est en amont, tout ce qui est après, ben c'est ça fait partie intégrante du rôle de l'infirmière.
C'est notre partie à nous, puis n'importe qui pourrait installer un tube nasogastrique avec quelques directives. La loi 90 même le permet, là, qu'on enseigne des choses aux proches des patients, aux préposés, tout ça, des tâches, des techniques là, que nos étudiants ont si hâte de faire. Bon, on peut montrer ça à quelqu'un d'autre, mais le jugement, l'évaluation en arrière de ce geste-là, ça fait partie de notre rôle infirmier. Puis ça, je pense que c'est vraiment... Notre champ de pratique, notre profession là, a pris son ampleur par l'évaluation, puis l'importance que ça prend là, dans notre quotidien.
Tout à fait. Puis le côté, ce qui nous distingue aussi des autres professionnels, c'est de voir les complications, d'anticiper les complications pour être en mesure d'intervenir rapidement. Parce que s'il n'y a pas de complications, le patient n'a pas d'affaire à rester à l'hôpital, il va s'en aller. De plus en plus, on le voit, hein, avec les courts séjours, les patients restent de moins en moins. Donc, les patients qui sont hospitalisés demandent une surveillance encore plus accrue. Et c'est l'évaluation qui va le faire. Si tu regardes ton plan de travail, ce que tu vas avoir dedans, ce sont les prescriptions médicales. Et tu vas avoir la fréquence des signes vitaux, tu vas avoir la fréquence des glycémies, tu vas avoir les médicaments que tu as administrés. Le médecin n'est pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois évaluer. Ça t'appartient à toi. Donc, il faut que tu le fasses de façon autonome. Et c'est ce qui va distinguer une bonne infirmière d'une infirmière correcte, d'une infirmière dangereuse. Et donc, de juste de donner de la médication, je donne mon opiacé puis je m'en occupe pas, ben ça peut amener des décès. Donc, dans 99% des cas, avec la quantité d'opiacés qui est donnée dans les hôpitaux, il n'aura pas de problème. Mais quand il va en avoir, il faut qu'il soit vu. Donc, l'évaluation est primordiale. C'est pour le un patient sur 1 million que ça va arriver. Donc, oui, ça devient de la routine. Mais malheureusement, il y a encore des décès pour un
Un manque de
geste que
suivi.
l'on fait de façon quotidienne d'administration d'opiacés qui devient banal parce qu'on en donne tellement. C'est surtout quand tu travailles en chirurgie, on donne 10, 15, 20. 20 opiacés par jour, par quart de travail. Donc, ça devient de la routine. Okay? Mais si je ne prends pas l'habitude de faire les évaluations comme ils doivent être faits, la journée où il y en a un qui va mal aller, ben, tu ne le verras pas parce que tu les auras pas fait tes évaluations. Malheureusement, des fois, ça cause des décès.
Souvent, il y a des signes précurseurs à ça, donc d'y être attentif là, dans chacune de mes administrations, même avant celle qui fera une dépression respiratoire. Là. Tu le vois, là, la petite chute de tension artérielle à ton patient. Quand j'avais un patient, moi, qui avait fait ça, on le voyait là, au niveau de sa pression artérielle. À chaque fois qu'il recevait un narcotique, tu sais, sa pression artérielle diminuait. Il n'y avait pas une respiration qui était hyper basse. Mais juste, on le voyait un peu diminuer. J'ai dit à mon étudiante, hey, regarde, il a l'air sensible, tu le surveilleras ce soir. Jamais je pensais que ça allait faire ça pour vrai cette soirée-là, mais réellement, il nous a fait une dépression respiratoire. Mais on le voyait dans son diagramme de signes vitaux, là, on voyait vraiment qu'il y avait une chute après ses administrations. Puis, on aurait pu agir avant, tu sais, ou du moins, on était attentifs, puis on a agi rapidement, quand c'est apparu au moins.
Mais
Okay. Mais il
c'est
faut le
ça.
voir, c'est ça.
Mais tu l'as vu arriver parce que tu as fait de l'évaluation.
C'est ça.
Pas d'évaluation, tu ne le vois pas arriver. Il est trop tard.
C'est complexe, finalement, l'évaluation, puis de cibler mes signes d'alarme, de connaître mes normalités, tout ça. Pour nos étudiantes, qu'est-ce qu'on peut leur ou nos infirmières en début de pratique, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme truc pour consolider leur évaluation puis être un petit peu plus solide, plus confiant dans cette tâche-là qui finalement, c'est notre profession, là. On va pas la minimiser. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander là, pour s'aider un peu?
Ben, moi, la première chose, je dirais, ouvre tes livres. Tu as des beaux volumes de référence, puis tout est écrit dedans. Donc, tu sais, quand tu fais tes travaux de stage, faut pas juste, ah, ce que tu as retenu du cours que ta prof a donné. Va fouiller dans ton livre. Va regarder, bon, OK, je sais pas, moi, j'ai installé une sonde aujourd'hui. J'ai-tu vraiment fait des évaluations préalables avant? T'sais, va fouiller dans ton livre. Ah, il y avait telle évaluation. Ben, ça, je ne l'avais pas faite. Mais tu vas y repenser la prochaine fois. Écrire. Avoir une feuille, puis décrire tes évaluations à faire. Donc, dire, ah, quand je rentre dans la chambre de mon patient pour la première journée, je dois évaluer ça, 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 ça. Fais-toi un aide-mémoire. Okay? Après ça, à un moment donné, rendu en sixième session, tu n'auras plus besoin de ton aide-mémoire. Mais dans tes premières journées de stage, c'est normal d'en avoir. Avec
Non,
ton
même après,
aide-mémoire,
même infirmière, là, au début, quand tu as un patient de tel format, de prendre le temps de cibler les évaluations prioritaires pour ton patient sur ton plan de travail là, avant de rentrer dans la chambre, je pense que ça peut vraiment t'aider à te structurer puis rien oublier,
c'est
là.
ça. Quand tu fais ta recherche de médicaments en début de stage, même chose. Les évaluations, qu'est-ce que tu dois évaluer avant de le donner? Qu'est-ce que tu dois évaluer après pour voir l'efficacité, pour voir apparaître des complications en lien avec la médication que tu viens de donner? Donc, pas juste faire tes travaux de stage pour un travail de stage. Ton travail, ce que tu vas écrire pour ta recherche de médicaments, c'est parce que c'est quelque chose que tu dois prendre en compte et le faire pour de vrai avec ton patient. Donc, ça devient le côté consciencieux, ton côté autonome d'infirmière. C'est pour ça que tu fais ta formation. C'est pour ça que tu vas avoir un permis d'exercice. Parce que tu es capable de faire une évaluation complète d'un patient symptomatique, autant au niveau physique que mental. C'est ta première activité réservée. Donc, si tu n'es pas capable de la faire, pourquoi l'Ordre des infirmières vont te décerner un permis d'exercice?
Donc, il faut
Donc,
être
je pense que
curieux, il faut se renseigner,
oui.
soit en stage, soit en début de pratique. Je disais tantôt, mon drain pancréatique, il draine quelle couleur, je n'ai aucune idée. Faut pas que je m'assieds et je me dis, bon, ça doit être normal. Dans les notes, tu as tout le temps de la même couleur. On va creuser, on pose des questions, puis on se renseigne là, pour construire notre bagage de connaissances. On apprend toujours dans cette profession-là. On n'arrêtera jamais d'apprendre. Il faut chercher dans nos livres, chercher dans nos outils pour essayer de voir les complications possibles, les signes alarmants. Est-ce que j'ai tout fait aujourd'hui, ce que je pourrais faire? Est-ce que j'aurais pu rajouter des choses? Je pense que c'est une bonne façon déjà d'ajuster notre évaluation puis d'être en construction là, de nos compétences continuellement par rapport à ça. C'est une super bonne, c'est une bonne idée.
Absolument.
Quand
Puis
on faut
quand.
s'asseoir là-dessus, là. Oui.
Non, non. Puis quand tu es assis à table de travail en stage, tu dis, hey, j'ai plus rien à faire. Non, c'est impossible. Il y a toujours de l'évaluation à faire. Il va y avoir de l'évaluation pour prévenir. Donc, ton patient, il est-tu plus à risque de faire des plaies? Il est-tu plus à risque de faire des chutes? Il est-tu plus à risque de X, Y? Vas-y, c'est le temps d'aller faire des évaluations en prévention. Donc, essayer de rechercher des problèmes, c'est de l'évaluation. Donc, sois curieuse et prends ton temps qui te reste parce que tu as toutes fait tes techniques pour aller évaluer.
Une façon d'envisager les complications, puis les signes d'alarme, ou peu importe, puis d'apprendre, autre que les manuels, là, je pense que c'est d'aller lire le dossier médical, les notes médicales. Souvent, le médecin, il va écrire qu'il y avait telle ou telle hypothèse hein, dans leurs notes, leur façon d'écrire, ils vont écrire, ben finalement, c'est pas une DRS parce qu'il y a telle chose, ce n'est pas une embolie pulmonaire parce qu'il y a telle affaire. Donc, déjà, juste de lire ces notes-là qui expliquent un peu pourquoi lui n'est pas allé vers cette piste d'hypothèse-là, dans le fond, chez le patient. Mais ça te permet de toi de dire, OK, la prochaine fois, quand je vais le voir dans la chambre, je peux penser à cette hypothèse-là parce que le médecin en a parlé. Je peux évaluer ces signes cliniques-là chez mon patient parce que c'est une possibilité. Je trouve que ces notes-là peuvent essayer de nous aider un peu, nous aiguiser parce que les livres, des fois, c'est moins attribué au patient directement. quand on lit sur, tu le disais tantôt, je pense, mais l'insuffisance rénale, on parle de l'insuffisance rénale, mais on ne la met pas avec un problème neurologique. Puis un... Donc, nos patients sont tous différents. Mais dans la note médicale, ça va essayer de prendre en note tout ça. Ça m'aide à me structurer un peu dans mes prochaines évaluations. Ils vont parler aussi du prochain scénario catastrophe. Souvent, ils vont dire pas de signe de telle affaire. Tu dis, oh, ça, c'est mon prochain scénario catastrophe qui peut arriver. Fait que ça, c'est une bonne méthode aussi d'augmenter nos connaissances sans, pendant qu'on est sur le milieu de travail, tu sais, dans le fond, sans sortir de ce milieu de travail-là. Je trouve aussi de nos collègues, de soit étudiantes infirmières quand on est stagiaire, mais nos collègues infirmières, quand une fois qu'on est gradué, si on a une mentor, qu'on trouve que ces évaluations sont toujours justes, qui sont toujours bien faites, tout ça, mais aller dans la chambre avec ces personnes-là, observer vos profs de stage, les infirmières avec qui vous travaillez, parce qu'ils ont une façon d'évaluer qui est souvent rapide, structurée. Puis quand ils vont sortir de la chambre, ben, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont observé, qu'est-ce qu'ils ont vu, c'est quoi qu'ils ont entendu aussi. Comme ça, après ça, ben, tu t'inspires de ça pour ta technique de travail après. Tu dis, ah, j'ai aimé ça, comment qu'elle a posé telle question, je vais l'utiliser la prochaine fois. Donc, de s'approprier des petits parcelles de Sylvie, des petites parcelles de Karine, des petites parcelles de Joséphine. On met tout ça ensemble, puis ça va faire votre pratique à vous. Mais vous avez des super beaux mentors sur les planchers, fait qu'on peut aller les observer, là. Profiter des gens qui sont là, tu sais.
Absolument. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu dirais de l'évaluation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait à l'occasion?
Ah ben, c'est vraiment banal, l'évaluation. Je trouve que ça. Je ne sais pas pourquoi on a passé un podcast au complet là-dessus. Non, non, sans joke. Je pense que l'évaluation, ça fait partie de notre profession. C'est juste. Tout est basé là-dessus, finalement. Tout ce qu'on fait, toutes nos interventions, nos interactions avec le patient part de notre évaluation clinique, de nos constats qu'on a faits avec le patient, de nos hypothèses qu'on pense qui peut arriver avec lui. Parce que j'ai évalué mon patient puis j'ai vu tel facteur de risque. Donc, je pense que tout part de cette première activité réservée à l'infirmière, finalement. Pas pour rien, c'est la
Effectivement.
première en haut de la liste.
Non, c'est ça. Donc, fait que ce qu'on leur souhaite, c'est d'être curieuse, de poser des questions, de rechercher de l'information. Donc, on l'appelle évaluation, contribution à l'évaluation, évaluation, observation, c'est d'aller chercher des données sur notre patient par rapport à plein de choses qui pourraient arriver.
Ah,
Donc,
je rajouterais, Sylvie, de
oui.
croire en notre pertinence, puis de ne pas être gêné. Hein, des fois, on dit, oh, mais là, je suis gênée de lever la jaquette, de déranger le patient, des fois juste de regarder ses pieds ou tout ça, je ne veux pas le déranger. Non, non, mais ces évaluations-là, elles sont pertinentes. On vient de le dire pendant 1 heure de balado. C'est des évaluations qui font partie de ta profession. Donc, il faut croire en cette pertinence-là, parce qu'elle est prouvée scientifiquement, ce n'est pas juste une croyance, là, et croire en soi, puis foncer pour ces évaluations-là.
Tout à fait. Puis le patient, on ne le dérange pas. Il est là pour ça.
C'est
Tu sais,
ça.
on va réveiller un patient pour voir s'il est bien orienté, si son niveau de sédation n'est pas trop élevé. Bien, c'est normal de le réveiller. Il est là pour des soins. Il s'attend à ce qu'on le surveille. Ça fait partie de notre rôle. Il est là, il est à l'hôpital pour qu'on le surveille, pour qu'on l'évalue, puis on va faire les évaluations qu'on a besoin de faire.
C'est notre job, notre travail finalement.
Absolument. Donc, 60-70% de notre travail, c'est de l'évaluation, malgré tout ce qu'on en dit.
Exactement. Merci beaucoup Sylvie pour le podcast d'aujourd'hui, de
Bien,
ton
merci à toi.
expérience surtout.
Bien, même chose pour toi. Puis j'espère que les conseils, puis la réflexion qu'on a fait au niveau de l'évaluation, ça va vous aider à vous conscientiser davantage sur votre rôle qui est si important au niveau de l'évaluation de vos patients. Vous êtes les yeux, du médecin. C'est grâce à vous qu'on trouve des complications, qu'on évite des problèmes au niveau des patients. Donc, c'est pas banal comme information à faire. Donc, il faut vraiment aller chercher, il faut faire de l'évaluation, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais ça, merci beaucoup.
Merci à toi, Karine,
C'est
on
belle
se revoit
conclusion.
pour un prochain épisode.
Oui, à la
Bye bye.
prochaine. Salut.
Bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces, des histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière.
Rappelez-vous que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part.
À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres.
Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de faire grandir la communauté de infirmières, de novices à expertes.